Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Vélo Francette, une aventure cyclable de la Normandie à l'Atlantique sur 600 km pour redécouvrir notre douce France au fil de l'eau et de petits villages de campagne. Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Sacé, en Mayenne, à la rencontre de Laetitia Chorin. Née au bord de la rivière, cette enfant du pays a un jour décidé d'effectuer un retour aux sources pour s'investir dans ce département en plein développement. Son projet, réhabiliter des maisons éclusières en gîtes insolites pour les cyclotouristes et randonneurs en itinérant sur le chemin de halage. Avec Laetitia, on aborde son parcours et son retour en Mayenne, l'histoire des maisons éclusières et la gestion des écluses qui en dépendent, ou encore la création et les services proposés par les refuges du halage. La pause fait partie de l'aventure, une conversation enregistrée à la maison éclusière du port, à Sacé, et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Après 180 km sur la Vélo Francette, je suis bien arrivée dans le village de Sacé, dans le département de la Mayenne. La rivière du même nom traverse d'ailleurs le village et ça fait le lien avec l'épisode du jour puisque tu es à la fois gérante de maisons éclusières réhabilitées en gîte et tu es aussi chargée de la gestion des écluses qui en dépendent. Pour commencer, je te propose de répondre à une question d'introduction un peu spéciale qui s'inscrit dans cette itinérance sur la Vélo Francette. Pourrais-tu me raconter un souvenir ou une anecdote en lien avec le vélo ?
Plutôt qu'un souvenir ou une anecdote, ça serait plutôt une habitude que j'ai. Ouais. J'aime bien voyager en Europe, particulièrement, en itinérance. Je pars de ville en ville et j'utilise principalement les transports en commun ou mes jambes. Ouais. Mais au fur et à mesure de ces séjours, en fait, j'aime bien me garder une journée où je loue un vélo et où j'explore en fait le territoire ou la ville différemment.
D'accord.
Ça a permis de voir les choses différemment, d'un autre point de vue, d'aller plus loin aussi, et donc voir plus de choses que juste à pied. Et parfois dans des territoires en fait où qui sont pas accessibles avec les transports en commun aussi, quoi.
Alors le podcast Les Nouveaux Aventuriers met en avant les savoir-faire de nos régions et les femmes et les hommes qui les incarnent. Pour cet épisode en série spéciale avec la Vélo Francette, nous souhaitions mettre en avant des projets qui reflètent cet itinéraire, les saveurs des villes et villages de campagne. Les écluses font partie du patrimoine local et j'ai eu le plaisir d'en croiser de nombreuses en pédalant sur les chemins de halage. Avant de parler de ces infrastructures et de tes activités, pourrais-tu, pour commencer, te présenter et me parler de ton parcours ? J'ai lu que tu étais née pas très loin d'ici.
Oui, je suis née à Mayenne, donc à 15 km. Et à l'époque, la maternité était sur les bords de la rivière. Ça vient peut-être de là, en fait. Hein. Voilà mon intérêt par rapport à la rivière de la Mayenne. Donc, je suis née à Mayenne. J'ai grandi dans le nord Mayenne.
Ouais.
Après, bien sûr, je suis partie pour mes études. Mais je suis revenue il y a maintenant 6 ans. Et j'espère pouvoir m'y établir définitivement.
Alors, on a une passion commune pour le voyage. Tu as commencé à en parler tout à l'heure avec le vélo. Et j'imagine que c'est ce qui t'a motivé à travailler dans le secteur du tourisme. Mais quel a été le déclic, finalement, qui t'a amené à réhabiliter des maisons éclusières ? C'est quand même un projet atypique.
Oui, bah en fait, j'avais depuis très longtemps en fait, un projet de créer un hébergement style auberge de jeunesse. Mmh. Parce que lorsque je voyage, en effet, moi, je vais essentiellement dans les auberges de jeunesse. Et donc, je voulais faire quelque chose comme ça dans mon département en Mayenne. J'attendais l'opportunité. Je ne pensais pas que l'opportunité allait se présenter aussitôt.
Ouais.
Et en fait, il y a eu l'appel à projet du département de la Mayenne où ils voulaient réhabiliter les maisons éclusières. Parce qu'elles sont à l'abandon, elles ne sont pas utilisées. Et aujourd'hui, avec la Vélo Francette, donc le halage, qui a été très bien aménagé et qui est encore des aménagements, donc voulait réhabiliter ces maisons éclusières, en faire quelque chose pour le patrimoine, pour l'économie, pour le développement du département.
Mmh.
Moi, j'ai répondu à l'appel appel à projet. Je voulais 3 maisons éclusières pour la viabilité de mon projet. Ouais. Et je voulais 3 maisons dans le Nord Mayenne.
D'accord. Donc ça, c'était tes exigences.
C'était mes exigences. Alors, mon projet, donc, il tenait la route. Mais sinon, je ne me suis pas trop battue pour le Nord Mayenne. Mmh. Parce que tout est à faire. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, en quelque sorte. Voilà, je suis un petit peu précurseur de développement du halage partie Nord Mayenne.
D'accord. Donc, là où tu étais originaire, finalement.
Oui, ouais, ouais. C'est ça.
Alors, quelles sont les histoires, justement, de ces maisons éclusières et comment as-tu imaginé leur aménagement? On voit, justement, devant chaque façade, et il y aura un reportage photo qui a la date de la construction de ces maisons. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu leur histoire?
Oui. Alors, en effet, le halage et les quais, en quelque sorte, notamment à Laval ou à Mayenne, se sont développés au fur et à mesure que le commerce maritime s'est développé. À l'époque, on avait soit le train pour transporter les marchandises, soit la rivière. Donc, à chaque écluse, surtout en Nord-Mayenne, on a beaucoup d'écluses, on a des écluses à peu près tous les 800-900 mètres. Ouais. Il y avait un éclusier qui vivait avec sa famille dans la maison éclusière. Donc, très souvent, ils étaient autosuffisants, hein, parce qu'il y avait le potager dans le jardin, la cave, elle servait, par exemple, pour mettre les cochons. Mmh. Et puis, donc, voilà, ils vivaient au rythme des bateaux. Et donc, voilà, ça s'est développé au milieu du 19e siècle. Ouais. Et ensuite, le transport maritime commercial, du coup, a plutôt décliné. Donc, de transport fluvial, on est devenu un petit peu plus en tourisme fluvial depuis les années 2000. Donc, il y a beaucoup moins de bateaux. Maintenant, ça va être uniquement des bateaux de plaisance. Et donc, forcément, au fur et à mesure, les éclusiers sont partis. Ils étaient à la retraite et donc, ils n'ont pas été remplacés.
Et comment tu as fait, justement, pour imaginer, finalement, l'aménagement de ces maisons, garder une part d'authenticité finalement, mais aussi une part de modernité qu'on retrouve à l'intérieur?
Et ben, en fait, le département de la Mayenne reste propriétaire des maisons. Donc la première maison que j'ai ouverte, le port, donc à Sassé, ça servait de maison témoin. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait faire comme aménagement. À l'époque, il n'y avait pas de toilette dans la maison. Donc ça, par contre, pour faire un hébergement touristique, ça, certes, ça peut être sympa vraiment pour l'authenticité, mais il faut un petit peu de confort. Donc forcément, les lieux ont un petit peu été modifiés. Mmh. Mais autrement, voilà, les deux autres maisons, donc la Fourmandière et la Richardière, qui vraiment étaient vraiment rentrées dans mon projet, où là, on a déshabillé les maisons, mais vraiment du sol au plafond. Ouais. On a vraiment gardé que les murs. Là, c'était plus en cohérence en fait avec mon projet. Donc, par la Richardière, par exemple, vraiment pour les cyclotouristes, donc en dortoir, un peu comme les refuges de montagne.
Ou les auberges de jeunesse.
Et les auberges de jeunesse. Et c'est pour ça que mon projet, en fait, quand j'ai donné un nom à mon projet, les refuges du halage, j'avais vraiment cette idée en tête, en fait, de dortoir et le lieu où, voilà, on est tout seul, on est deux, on est trois, on est avec des enfants ou pas, et on se rencontre, on partage des choses. C'est vraiment ça le projet des refuges du halage.
Et je peux dire aux auditrices, aux éditeurs du podcast qu'on s'y sent bien, puisque j'ai passé la nuit dans le refuge et tout s'est très bien passé, donc je conseille le passage et la halte au refuge du halage. Et d'ailleurs, c'est le nom que tu as donné aux trois gîtes écluses. Alors ce nom, il fait référence au chemin de halage. Alors, tu as commencé à en parler tout à l'heure, tu as utilisé plusieurs fois le mot halage. Pourrais-tu nous expliquer à quoi servaient ces chemins que l'on emprunte aujourd'hui à vélo?
Alors, les chemins, c'est vrai que les chemins de halage, à l'époque, c'était juste la partie qui bordait la rivière. Il n'y avait pas du tout d'aménagement. C'était pas comme pour aujourd'hui de la promenade. Aujourd'hui, c'est de la promenade, vélo, piéton, cheval aussi. Et donc, le halage, en fait, c'est vraiment un lieu qui longe la rivière. Et avec la Vélo Francette, le département de la Maine a souhaité réaménager ce halage. Mmh. Donc, ça se fait au fur et à mesure. Quand vous viendrez, bien, c'est vrai que vous verrez qu'il y a encore quelques aménagements à faire par-ci, par-là. Mais il faut prendre son temps, faire les choses correctement. Mais en général, le halage mayennais est assez bien apprécié par les usagers.
Alors, il y a 37 écluses entre Mayenne et le sud de Château-Gontier. Alors, à quoi servent ces écluses et comment fonctionnent-elles? Je pense que ça, tout le monde ne sait pas exactement comment fonctionne une écluse. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer son fonctionnement?
Oui. Alors, les écluses, en fait, c'est pour passer le dénivelé de l'eau. C'est pour ça que nous, à partir du Nord Mayenne, on va dire, quand je parle du Nord Mayenne, ça va être Laval à la ville de Mayenne. La ville de Mayenne, c'est la bande zéro. Donc, c'est la dernière écluse, enfin, ou la première écluse. Ça dépend si vous allez en amont ou en aval. Ouais. Et donc, c'est pour passer faire le dénivelé. Vous imaginez que c'est comme pour un ascenseur. Voilà, vous avez des paliers à chaque fois. Si on n'a pas les écluses, votre bateau, ça, vous allez avoir beaucoup de mal à passer. Et puis surtout que, en fait, les écluses, on a un barrage. Le barrage, aujourd'hui, il est exploité par EDF, notamment. Donc, il récupère la force de l'eau pour en faire de l'électricité. Mmh. Et l'avantage du Nord-Mayenne, c'est que comme on a beaucoup d'écluses, eh bien, là, c'est un régal pour les centrales d'EDF. Et donc, le fonctionnement, c'est comme je disais, c'est comme si c'était un ascenseur. Vous arrivez, par exemple, vers Laval. Laval, le contraire de l'amont. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous arrivez vers Laval. Donc, vous rentrez dans l'écluse. Il faut que vous puissiez monter la marche. Pour monter la marche, eh bien, il faut qu'on actionne l'écluse. Donc, on ferme la porte aval pour qu'on puisse ensuite ouvrir la porte amont. Et comme ça, vous passez de palier et vous montez en fait d'un étage.
Et donc, les écluses que tu gères, toi, ce sont des écluses manuelles, essentiellement ?
Oui, c'est ça. En fait, dans le Nord-Mayenne, les écluses sont manuelles. Pour le moment, on a une écluse électrifiée à Laval et deux ou trois automatisées sud-Mayenne. Donc, automatisé, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton. Électrifié, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'éclusier. Les portes s'ouvrent, en fait, lorsqu'ils détectent qu'il y a un bateau. Manuel, ça veut dire que c'est à la force des bras.
Alors, le métier d'éclusier, justement, est en voie de disparition avec l'automatisation que tu viens d'évoquer. Et je fais le parallèle avec le métier de gardien de phare, finalement, qui est aussi en voie d'extinction avec l'automatisation. Alors, comment devient-on éclusier ? Est-ce qu'il y a une formation et regrettes-tu la disparition progressive finalement de ce savoir-faire qui est un savoir-faire historique et notamment ici dans ce département ?
Donc le département de la Mayenne embauche chaque été des éclusiers, très souvent des étudiants. Nous dans le Nord-Mayenne, l'éclusage c'est de mi-juin à mi-septembre. C'est un petit peu plus long dans le Sud-Mayenne parce qu'il y a un peu plus de bateaux. Et donc en effet, on peut se dire, l'éclusier, oui, il ouvre et il ferme les portes pour faire passer le bateau. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Parce que pendant des kilomètres, vous pouvez ne voir personne.
Ouais.
La seule âme vivante pouvant répondre à vos éventuelles questions, ça va être l'éclusier.
Mmh.
Donc, en particulier dans la partie nord Mayenne, comme il n'y a pas beaucoup de bateaux, on a beaucoup plus de cyclos que de bateaux, eh bien, on va être là pour répondre aux questions des gens, pour discuter avec eux, tout simplement, pour partager. Et donc, en effet, c'est un combat, en fait, qu'on soit éclusier saisonnier ou comme moi, éclusier à l'année. Montrer qu'on n'est pas là uniquement pour faire passer les bateaux.
Ouais.
Voilà. Sauf que voilà, c'est un service qu'on propose gratuitement, mais que le département paye. Donc forcément, ça, on revient toujours à la même question économique.
Bien sûr, c'est l'enjeu aussi du maintien des savoir-faire, c'est la question économique et on se rend compte que ce soit pour le métier d'éclusier ou encore une fois le métier de gardien de phare, que les enjeux économiques prennent parfois le dessus sur l'enjeu humain finalement et le maintien d'un savoir-faire et c'est parfois triste, mais effectivement le fait de mixer finalement les activités permet finalement de maintenir aussi ce savoir-faire et on le voit encore une fois que toi tu arrives à faire à la fois le métier d'éclusier mais aussi de diversifier.
C'est ça qui est important, je trouve, du moins sur mon territoire, parce que faire uniquement les maisons éclusières en tant que gîte, hein, déjà, la journée ne serait pas assez remplie pour moi. Voilà, parce que voilà, les gens partent à 11h, les premiers arrivants, normalement, ils arrivent à 15-16h. Donc, il faut bien que je m'occupe entre les deux. Hein. Et puis, je trouve que c'est un tout, en fait.
Ouais.
Les gens, je parle particulièrement pour les cyclotouristes, les gens, ils arrivent, ils veulent un service. Parce que, en fait, nous, dans le Nord-Mayenne, on n'a pas de commune autour vraiment du halage. Ils sont là, c'est vraiment le no man's land, en fait.
Hein. Ouais.
Et puis, il faut qu'il y ait des services. Des services qu'il ne va pas forcément y avoir. Donc moi, ce que je souhaite proposer, c'est vraiment une offre complète. Voilà. Et là, depuis cette année, je développe même le côté animation. Donc avec des ateliers, avec du paddle, de la location de vélo, des choses comme ça, vraiment pour que les gens qui viennent ici, même si c'est que pour une seule nuit, eh bien, qu'il y ait vraiment une expérience globale. Mmh.
Alors, tu parlais tout à l'heure des profils de voyageurs que tu rencontres et accueilles ici. Alors, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter sur des voyageurs ou même des passages en bateau ? J'imagine que tu as dû voir déjà de sacrées choses en 2 ans.
C'est vrai que là, tous les jours, on rencontre des gens incroyables. Quoi.
Ouais.
Encore ce matin, des gens... j'avais beaucoup de choses à faire, mais je suis restée 1 heure à discuter avec des gens. Quoi. Parce que voilà, ils étaient randonneurs, donc on parlait de voyage, etc. Je me rappelle très bien de mes premiers voyageurs. sont très marquants de toute façon, c'est obligé. Après, dans les premiers voyageurs, il y a un couple de Néerlandais, Jill et John. Et donc, ils sont venus un jour, ils sont arrivés, il était midi, quelque chose comme ça, à l'écluse du port. Ils ont vu une petite épicerie. Ils ont dit, on va s'arrêter manger, etc. Donc, ils ont arrêté manger, boire un coup, etc. Et puis, il était 3 heures, ils étaient bien, il faisait beau. On dormirait bien. Et voilà, du coup, voilà, ils sont restés dormir, ils sont passés toute la journée avec moi, c'était super sympa. Et depuis, on s'envoie des petits mails pour savoir comment ça va, pour le nouvel an, pour avec la période qu'on vient de vivre, savoir si ça va, etc.
Une belle anecdote et un vrai lien qui se crée finalement
c'est
avec
ça.
Les personnes qui sont
tout
des passagers.
Tout à fait, des gens qui reviennent,
Alors en plus d'être un lieu d'hébergement, tu viens l'évoquer, tu proposes également des produits locaux dans une cabane qui fait office de petite épicerie. Quels produits proposes-tu et pourquoi avoir fait justement aussi ce choix de, encore une fois, diversifier tes activités et créer ce lieu, cette petite épicerie ?
Alors les produits que je propose, j'essaye de proposer quelque chose qui, en fait, pour répondre à tous les besoins. Mmh. Donc ça peut aller du petit déjeuner au dîner, en passant par l'apéro, il ne faut pas l'oublier quand même. Après le vélo, ça fait toujours du bien. La réparation de vélo aussi. Ouais. Le but de l'épicerie, c'était de répondre aux besoins des cyclotouristes, mais aussi aux usagers du halage, et notamment les Mayennais. Mmh. Et je propose des produits locaux. En fait, j'essaie de faire le plus proche possible. Voilà, grosse moitié de mes produits viennent de moins de 20 km aux alentours. Ouais, et on a vraiment de tout. Le but, c'est vraiment que les gens aient tout ce dont ils ont besoin facilement au même endroit. Mmh.
Alors, on est dans le département de la Mayenne. On en a parlé pendant tout cet épisode, ton département natal, donc. Et quels sont les atouts de ce département et les raisons qui font que tu ne quitterais pour rien au monde cette région ?
C'est vrai que souvent, j'ai tendance à dire que les Mayennais, lorsqu'ils sont jeunes, ils s'en vont de la Mayenne pour leurs études, forcément. Mmh. Mais dès qu'ils ont 30, 35 ans, ils reviennent. C'est quelque chose qui est assez classique. Et donc, en fait, la Mayenne a beaucoup évolué. En 10-15 ans. Donc, c'est vrai qu'on pensait que c'était une ville dortoir, un département dortoir. On disait aussi qu'on avait 30 ans de retard, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on voit que des gens viennent d'un peu partout. J'ai même eu des New Yorkais l'année dernière. Donc, et on recherche le vert. Donc ça, le vert, vous allez en trouver un peu partout en Mayenne, ça, il n'y a pas de souci. Des paysages très différents. Moi, j'ai tendance à dire que la Mayenne, on la divise en 4. En fait, vous avez la partie qui ressemble à l'Orne, la partie qui ressemble à l'Ille-et-Vilaine, la partie qui ressemble au Maine-et-Loire et la partie qui ressemble à la Sarthe. Donc, en fait, selon le coin là, que vous allez aller en Mayenne, vous allez voir des paysages différents. Mmh. Et rien qu'en faisant la vélo française, là, pour l'instant, vous êtes partie nord-Mayenne, mais dès que tu vas aller, dès que tu vas passer Laval, tu vas dire mais c'est bizarre, on a changé de département. Et en fait, c'est exactement ça. C'est la diversité du paysage, déjà rien que ça. Et puis de plus en plus, on a une offre culturelle aussi qui se développe. On a beaucoup de festivals, des musées très différents, des producteurs aussi. Si vous aimez manger et découvrir des choses, il y a ce qu'il faut aussi. Mmh.
Alors toi qui as beaucoup voyagé justement, et dans le prolongement de cette question, et dans une optique de valoriser aussi le tourisme en France, à quel pays comparerais-tu la Mayenne ?
Je crois que c'est pas comparable. Je me disais comme ça, peut-être l'Angleterre, ça serait peut-être le plus proche.
Oui.
Ouais, l'Angleterre du Sud. L'Angleterre, c'est pareil. Hein. Dès qu'on dépasse Manchester, rien qu'à l'accent, on a changé de pays. Mais non, c'est difficile. Je pense que ça va faire un petit peu agence de com', mais la Mayenne, c'est unique.
Alors, le tourisme responsable est une façon de voyager qui respecte au mieux les enjeux de développement local et de protection de l'environnement et aussi de rencontre avec les populations. Alors, comment fais-tu pour intégrer justement ces critères de tourisme responsable dans ton activité ? En sachant que c'est une attente forte aussi aujourd'hui de notre société.
Tout à fait. C'est vrai que y a de plus en plus, on essaye d'allier tourisme responsable, slow tourisme, et aussi répondre aux besoins des personnes. Et j'ai beaucoup d'hôtes qui viennent me dire, c'est super la Mayenne, mais il ne faut pas trop le dire, hein, parce qu'après, il y aura trop de monde. Donc, le but, tourisme responsable, c'est ça, c'est être responsable. Essayer donc de de pas aller au-delà de ses capacités, quoi. Le but, en plus, de notre département, c'est justement essayer de prôner ça, le fait qu'on ait un département vert. Encore, aujourd'hui, c'est encore plus important. Moi, je suis adhérente de la marque Slowly Days, qui est menée par le département. Et donc, en fait, on signe une charte. Une charte qui en fait relie plusieurs points qui me sont propres, c'est-à-dire la bienveillance, l'accueil, utiliser des produits locaux. Donc tout ça en fait fait partie de la chaîne des Slowly Days. Et donc si un jour je vois que je dévide ça, c'est qu'il y a un souci quelque part, c'est faut revenir aux sources, quoi.
Alors dans ce podcast, il y a une question que j'appelle la question émotion. Alors quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu jusqu'à maintenant dans cette aventure?
L'année dernière, j'ai accueilli trois dames. En plus, enfin, l'année dernière, on était en plein Covid, c'était pas forcément très évident. Ouais. Et donc, on a sympathisé avec ces trois dames. Elles m'ont invité à boire l'apéro. On reste aux choses terre à terre. Hein, ouais. et du coup, on a discuté. Puis, hop, il était 21, j'ai dit, bon, je vais peut-être y aller, quoi. Donc, ça, c'est le genre de moment que j'aime partager, ouais. Quoi. Moment moins heureux, c'est pas très drôle, c'est mon éclusé l'année dernière qui s'est blessé en éclusant. Donc normalement c'est le genre de choses qui arrivent pas, mais une mauvaise manip et ça peut arriver. Donc non, ça m'a bien fait flipper, ça. Ouais. Donc ouais, non, je pense que c'est le plus mauvais souvenir que j'ai, à Paris étiré. Je le dis à mes saisonniers tous les ans, ils servent d'exemple.
Alors comme à chaque fin d'épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, je te propose de répondre à une série de questions si d'aventure. Alors si d'aventure tu devais conseiller un lieu à visiter aux alentours de Sassé, quel lieu conseillerais-tu ?
Jublin, le site de Jublin, site archéologique. Donc il y a pour l'histoire, il y a des très belles randonnées à faire aussi autour.
Si d'aventure tu devais ne prendre qu'un objet dans le cadre d'une itinérance à vélo, quel objet prendrais-tu ?
Mon appareil photo.
Et si d'aventure tu devais donner un titre pour cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu ?
La pause fait partie de l'aventure.
La pause fait partie de l'aventure. Super. Bah pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion au gîte Écluse Le Port à Sassé. Les liens sont dans la description de cet épisode. Et si vous êtes en itinérance sur la vélo française, n'hésitez pas à vous arrêter pour une nuit ou une pause gourmande au refuge du Halage. Un grand merci Laetitia pour ton accueil et cet échange au bord de la Mayenne qui va m'accompagner encore pendant de nombreux kilomètres.
Merci à toi.
À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.